Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est de retour à l'antenne d'après la pause estivale, le groupe d'Evreux d'Amnesty International. Et pour ceux d'entre vous, et on ne doute pas qu'ils soient nombreux, qui nous écoutent depuis, depuis 6 ans, puisque c'est notre 6e rentrée sur l'antenne, ils sont peut-être un peu surpris par la date. Jusqu'à présent, on y nous retrouvait une fois par mois, le dernier mardi de chaque mois, à la même heure, 19h-20h. Et là, on n'est pas le dernier mardi du mois, que je sache, si ce n'est d'avoir inventé la machine à remonter le temps. Alors, on est effectivement le 13 septembre. Alors, c'est parce qu'on a décidé, vu la quantité de sujets qu'on avait à traiter et la quantité d'informations qu'on avait à vous donner concernant les droits humains, qu'il était plus réaliste de passer à 2 émissions par mois au lieu d'une. Donc voilà, à partir de cette rentrée, vous allez donc nous retrouver tous les 15 jours, le mardi de 19h à 20h. Voilà, et ce sera avec plaisir. Ce soir, avec moi, on est très nombreux dans le studio. Il y a Clairly.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Ronan derrière les manettes qui est en train de s'activer.
Bonsoir.
Et il y a moi, mais je ne me présente pas. Donc, voilà.
Didier.
Voilà, merci.
Et c'est encore l'été quand tu vois la chaleur.
Oui, on vous précise qu'effectivement, faire une émission ce soir dans le studio de Principe Actif, c'est plus un sauna qu'une émission de radio, c'est clair.
Bah, c'est bien parce que de toute façon, tout ce qu'on a à dire, c'est chaud, chaud,
oui,
chaud.
Oui, c'est chaud, exactement. Très bonne,
on est chaud bouillant.
Très bonne remarque. Donc, pour commencer l'émission, je voulais quand même, pour ceux qui nous découvrent, parce que comme on change de date, il y a peut-être aussi des gens qui n'écoutaient pas la radio le jour où on passait. Les gens qui nous découvrent, donc vous rappeler un petit peu ce que fait Amnesty International en quelques mots très simples. On existe depuis plus de 50 ans au niveau international, comme notre nom l'indique. Et on agit pour les droits humains, pour la défense des droits humains. Et je vais vous dire quelques mots, effectivement, sur ce que ça veut dire que cette défense des droits humains. Et je vais vous parler de notre texte de référence, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors ce texte que vous trouverez très facilement sur Internet, hein, je ne vais pas du tout vous le lire, mais qui reprend quand même des idées qui nous paraissent très très simples. C'est un texte qui n'est pas nécessaire d'être... Ronan, je vais faire un petit commentaire technique. J'ai un très mauvais son dans mon casque. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça, c'est, voilà, c'est très... Ça,
c'est pareil pour les autres,
ouais.
Oui, c'est haché.
Bon, donc voilà. Bref, j'espère que sur l'antenne, par contre, ça passe très bien.
Pour moi, ça passe.
Bon, d'accord, ok. Donc, je vais simplement... Ce n'est pas du tout un texte compliqué à lire, hein, donc ce n'est pas la peine d'être docteur en philosophie pour s'intéresser à ce texte-là, bien au contraire. Et je vais vous rappeler simplement le préambule qui situe bien les choses, le préambule de cette déclaration. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement des relations amicales entre nations, considérant que dans la Charte des peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Après, bon, je m'arrête là, après on découle les différents articles, il y en a une trentaine, de cette déclaration. Alors cette déclaration, elle était adoptée en 1948 à Paris, et elle faisait suite à, disons, à la révolte qui a suivi principalement les aurores qui ont été découvertes pendant la Seconde Guerre mondiale, dues principalement, mais ce n'était pas les seules, mais principalement aux atrocités commises par le régime nazi. Donc évidemment, ce texte-là avait un raisonnement très fort à l'époque. Pour autant, il continue à avoir un raisonnement très fort à l'heure actuelle, surtout avec la dégradation que l'on constate sur les principes de base de cette déclaration. Alors, c'est un texte qui se veut universel et qui respecte les critères de respect mutuel qui sont inhérents à ce que moi j'appelle le bien vivre ensemble. Si vous lisez le texte, effectivement, vous comprendrez que si on ne respecte pas ça, et c'est ce qui est le cas malheureusement de plus en plus à l'heure actuelle, on est mal parti. Contrairement à ce qui est dit aussi, je voulais faire un petit commentaire sur ceux qui nous taxent de droit de l'homisme avec des arrière-pensées politiques qui ne sont jamais très claires, que ce texte-là n'est pas du tout un texte polémique par rapport aux différentes cultures régionales, par rapport aux habitudes de vie des différentes communautés humaines, absolument pas. Ce sont des principes généraux et qui, en fait, ça s'implique effectivement de façon universelle, sans polémiquer et sans faire recours aux particularismes locaux. Ceux qui prétendent effectivement qu'il y a d'autres façons d'aborder les droits humains, ils s'ajugent toujours le droit de porter ces critères-là avec des arrière-pensées qui les remettent en cause, ces droits humains. C'est jamais neutre. Ce texte-là ne peut servir en aucun cas à un fonds de commerce, entre guillemets, pour des prises de position de candidats à des élections. Et je voudrais quand même, sans citer son nom, quelqu'un qui vient de publier un livre, qui est un candidat potentiel aux prochaines élections présidentielles en France, et qui a dit que, par exemple, et ça figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la présomption d'innocence et le droit à un respect équitable étaient une argutie juridique. Et ça, effectivement, quelqu'un qui se présente à des élections, effectivement, et qui emploie ce vocabulaire-là, c'est plus que dangereux. Je pense même que moi, enfin, c'est mon opinion, que cette personne-là, en fait, ne devrait pas avoir le droit de se présenter, puisqu'il remet en cause directement l'état de droit et les principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'argutie, alors pour ceux qui ont quand même regardé le sens précis du mot argutie, c'est un raisonnement qui est marqué par une subtilité excessive. Donc considérer effectivement qu'un droit à la défense et un procès équitable, c'est une subtilité excessive, ça fait effectivement froid dans le dos. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, je ne vais pas en dire plus. Référez-vous à ce texte et puis référez-vous au site, bien sûr, au site d'Amnesty, www.amnesty.fr, pour suivre nos actualités entre les émissions. Et puis, on est à Évreux, on est le groupe d'Évreux, donc si vous voulez en savoir plus sur nous, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un petit bruit derrière qui est apparu, Renan. Il y a des choses bizarres à la technique aujourd'hui.
Ah, je trouve aussi.
Ça doit être la canicule qui fait des...
Je pense que là, il y a ça.
Bon, voilà. Donc ce soir à l'émission, on va vous parler beaucoup de droits des réfugiés et des migrants. C'est Claire Lys qui va vous en parler. On va vous parler aussi de droits des enfants. C'est Françoise qui va vous en parler. On va vous parler de bonnes nouvelles. On en a beaucoup et heureusement, c'est Renan qui s'est spécialisé là-dessus. Également d'appel à l'action, c'est Renan aussi. Moi, je vais vous parler d'un dossier qu'on avait déjà évoqué. Je vais en faire un petit résumé pour ceux qui ne nous ont pas entendus sur l'évolution du traité sur le commerce des armes. Et Yamina qui va vous parler d'actualité culturelle. Voilà, donc déjà beaucoup de choses. Et on va démarrer tout de suite avec Claire Lys qui va vous faire un premier chapitre, si on peut dire, sur son gros dossier réfugiés et migrants.
Oui, donc en fait, je vous disais tout à l'heure qu'il faisait chaud. L'été a été très chaud en France, mais aussi à Évreux. Et on va vous relater quand même plusieurs choses qui sont arrivées dans la ville d'Évreux par rapport à l'accueil des personnes en situation de migration, si on veut dire, qui sont réfugiées. Alors, il y en a qui sont demandeurs d'asile, il y en a qui sont déboutés du droit d'asile. Et c'est plutôt de cela dont je vais vous parler dans la deuxième partie. Donc sur ce qui se passe, on parle toujours des migrants, mais à Évreux aussi, il y a des gens à la rue et qui ont passé des jours et des nuits à la rue. Là, je vais commencer par vous parler, en fait, déjà rappeler pourquoi, en quoi Amnesty prend position pour les réfugiés et les migrants. Nos actions ont pour but de prévenir et de dénoncer les violations des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Elles ont pour objectif de contraindre les États à prendre les mesures nécessaires pour que ces personnes soient protégées. Donc, il y a une grande campagne qui est en cours et qui continue d'Amnesty par rapport justement à ce qui se passe en Europe. Et cette campagne s'organise en deux grands volets. Un travail réactif pour empêcher les renvois de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés vers un territoire où ils seraient exposés à des violations de leurs droits. C'est souvent sur le terrain du respect du droit d'asile que s'exprime cette mission, mais aussi un travail tourné vers des situations qui, en Europe et dans le monde, mettent en danger les droits des personnes déracinées. Ce travail concerne à la fois la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des migrants, travailleurs ou non, et parfois des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Là, j'ai choisi de vous parler d'un pays dont on ne parle pas souvent, on n'entend pas beaucoup, beaucoup parler, et de la façon dont l'Australie a choisi de régler le problème des migrants. Donc, en fait, deux chercheurs, un d'Amnesty International et un d'une autre association, c'est Human Rights Watch, ont pu accéder à l'île de Nauru, en dépit du secret le plus strict imposé par l'Australie et Nauru sur le système d'asile. Donc le constat est désespérant. Au nom de la dissuasion, l'Australie et Nauru maltraitent de façon parfaitement délibérée et assumée hommes, femmes et enfants, au point que la plupart ont déjà pensé mettre fin à leur jour. Donc c'est un article d'Amnesty qui date du mois d'août 2016. Et il faut dire que pénétrer sur l'île de Nauru, quand on n'y est pas autorisé, c'est extrêmement difficile d'entrer sur Nauru. Et diffuser des informations sur le dispositif de détention des réfugiés est une infraction au regard de la loi australienne. Donc en fait, Nauru a même banni Facebook de l'île et dispose d'une loi rédigée dans des termes très vagues sur les menaces à l'ordre public qui pourraient être utilisées pour criminaliser toute protestation des réfugiés et des demandeurs d'asile. Depuis le mois de janvier 2014, Nauru n'a délivré de visa qu'à deux journalistes et le coût pour avoir ces visas est exorbitant puisqu'il faut payer 8 000 $. Et les procédures sont très longues. Donc, suite à le visa obtenu, ces deux chercheurs ont décrit la situation sur l'île de Nauru. Donc, en fait, il faut dire que depuis septembre 2012, l'Australie transfère de force vers l'île de Nauru toute personne qui arrive par bateau pour demander asile en Australie. Vraiment, peu de pays sont allés aussi loin pour infliger les souffrances à des personnes qui recherchent la sécurité et la liberté. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes parce que je suis en train de relire exactement la même chose.
J'ai peut-être un petit truc à rajouter sur ce que tu dis. Parce qu'il y a une bonne nouvelle justement par rapport à cette pays-là.
Oui, vas-y, commence à m'interrompre. Vas-y,
Renaud. Non, parce que le 18 août a été annoncé justement que le camp il va être fermé de l'île. Ouais.
Alors, juste pour expliquer quand même comment tu me casses mon truc, t'aurais pu attendre que j'ai fini. Les demandeurs d'asile et les réfugiés donc vivent sous des tentes.
Moi, c'est les bonnes nouvelles, qu'est-ce que tu veux ?
Oui, c'est bien. Ils vivaient donc sous des tentes à plus de 50 degrés, entassés.
Nous, on n'est pas à 50 degrés, mais bien près. Hein.
Donc, les familles, elles, sont placées dans des préfabriqués ou des conteneurs et les hommes seuls dans des minuscules chambres. La température extérieure atteint régulièrement 45 à 50 degrés, alors que les pluies torrentielles créent des inondations. Donc, dans la plupart des tentes surpeuplées, il y a chaleur étouffante et la moisissure qui envahit les parois. Les personnes détenues dans ces conditions souffrent d'infections et d'éruptions cutanées. Les femmes qui habitent l'île de Nauru, donc qui sont des réfugiés ou des demandeurs d'asile, ils sont dans un camp et elles n'osent pas sortir du camp parce que les habitants de l'île de Nauru attaquent les réfugiés. Donc des pierres et des bouteilles jetées, des véhicules qui foncent sur les piétons, des vitres cassées, mais aussi des attaques avec des couteaux ou encore le vol de leurs biens. Les réfugiés et demandeurs d'asile en sont les victimes. Voilà, et donc les femmes sont particulièrement exposées, elles n'osent pas sortir du camp sans être en groupe ou accompagnées d'hommes. Les risques de harcèlement sexuel, d'attouchement et même de viol sont trop importants. Donc il y avait eu effectivement un mouvement international qui a dénoncé ce qui se passait en Australie. Et donc ils sembleraient, enfin ils disent qu'ils vont fermer, mais c'est pas encore sûr.
Et encore, j'ai fait une petite erreur, parce que toi tu parles bien de l'île de Nauru, mais à côté, il y a une autre île qui s'appelle l'île de Manu. Et, enfin, et a priori, ça serait l'île de Manu.
Voilà.
Ça serait l'île de Manu qui fermerait le camp.
Donc, il y a un désaccord géographique, quoi, en gros, entre vous.
Non, c'est pareil, c'est en Nouvelle-Île, c'est en Papouasie.
Dans cette île de Nauru, il y a plus de 1200 personnes qui ont été envoyées de force. Et en Australie, ils ne s'embarrassent pas. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile, s'ils arrivent en bateau, de façon irrégulière, ils sont envoyés sur l'île de Nauru, où ils les jettent.
Merci Claire-Lise.
Ok, bon, bah, c'était la toute première introduction, mais on va entendre sur la situation locale, sur le même sujet, bien plus longuement tout à l'heure, Claire-Lise, qui a beaucoup d'informations et qui est très en colère par rapport à ce qui se passe. Vous en saurez plus tout à l'heure. En colère à juste titre. Elle n'est pas seulement en colère après Ronan, elle est en colère.
Non, non, mais non,
mais c'était pour faire, mais non. C'était pour
c'est
faire
le petit
une
breton
blague.
Rebelle, il faut que je l'embête.
Voilà. C'était pour faire une blague. Bon, Ronan, une bonne nouvelle après ces informations. On a décidé d'intercaler dans nos émissions le plus possible des bonnes nouvelles. On en
tout
a
tout
beaucoup
à fait. À bah, je pensais parler de Manu, mais bon, bon le Maurice.
Donc, Ronan, une bonne nouvelle, on va faire une intervention à chaque fois.
Ok, donc là, c'est en Argentine. Le 16 août, la Cour suprême de Tucumán a déclaré que les motifs n'étaient plus pas suffisants pour maintenir Belén, 27 ans, en détention provisoire. Il faut savoir qu'elle avait été emprisonnée après une fausse couche. Oui. Donc, elle a été libérée. Donc, oui. Il faut savoir qu'en Argentine, on peut être emprisonné après une fausse couche.
Il y a des pays qui font ça et c'est aussi inadmissible que cela soit-il.
Tout à fait. Donc, elle vient de libérer. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle.
Oui.
OK. Françoise, c'est les mineurs et les enfants. Voilà.
Donc, je vais vous parler des mineurs isolés étrangers. On estime que la population des mineurs isolés étrangers en France s'élèverait à 7500 personnes. Ces chiffres sont cependant imprécis car un nombre non négligeable de ces mineurs ne rencontre pas les institutions ni les administrations qui prennent habituellement des jeunes en charge. Donc l'origine géographique de ces jeunes est multiple. Le Congo RDC, le Sri Lanka, la Turquie, la Russie et leurs trajectoires sont complexes. Voilà les différentes sortes de mineurs étrangers qui existent. Mineurs, c'est-à-dire donc personnes de moins de 18 ans, des exilés, des mandatés, des exploités, des fugueurs, des jeunes qui errent et des rejoignants donc qui essaient de retrouver des membres de leur famille. Voilà. Je peux aussi vous dire que deviennent les milliers d'enfants migrants qui disparaissent chaque année. Alors, ces migrants qui disparaissent chaque année. Oui, ces migrants qui disparaissent chaque année. On a perdu la trace de plus de 10 000 enfants non accompagnés qui ont émigré en Europe depuis un an et demi. Beaucoup de ces enfants ont probablement rejoint des membres de leur famille, mais tout laisse à craindre que nombre d'entre eux soient tombés dans des réseaux criminels qui les exploitent comme esclaves ou les prostituent. Une étude révélait que la moitié des enfants étrangers séparés de leur famille, estimée à 5 000 sur le sol français en 2010, disparaissaient de la sorte. Cette étude recensait les risques auxquels ces enfants étaient exposés, risques sanitaires et psychologiques, trafic de drogue, délinquance sous contrainte, travail forcé, exploitation sexuelle. Des risques qui n'ont rien perdu de leur actualité lorsque l'on sait que les enfants représenteraient un quart du million d'émigrants arrivés en Europe à 2015. Un quart du million d'émigrants arrivés en Europe à 2015. Ils ne sont pas tous non accompagnés, mais nous avons les preuves qu'une grande partie d'entre eux pourraient l'être. Donc, il y a aussi du travail à faire de protection de ce côté-là.
Oui, et c'est ce qu'on fait effectivement aussi à Amnesty. Et on aura l'occasion d'en reparler. C'est sûr que c'est un sujet qui va être, à mon avis, assez récurrent pendant toute l'année. Il y a une campagne, mais on vous en parlera beaucoup plus dans les prochaines émissions. Une campagne mondiale qui démarre en ce moment par Amnesty International sur justement les droits des réfugiés et des migrants. Et donc des enfants, bien évidemment. Donc on aura tout à fait l'occasion d'en reparler de multiples fois. Est-ce que, Ronan, tu nous refais une deuxième bonne nouvelle
tout à fait.
La pause musicale qui, je crois, va suivre après.
Un réfugié syrien, justement, on parlait des réfugiés, un réfugié syrien rejoint sa famille en Australie. Fadid Mansour, un réfugié syrien, a enfin retrouvé sa famille à Melbourne, en Australie. Avant cela, il avait été détenu arbitrairement dans des conditions inhumaines à l'aéroport Atatürk d'Istanbul pendant plus d'un an.
Voilà, et ça fait bien aussi avec ce que disait Claire-Lise à propos de l'Australie. Un petit peu de musique.
My love, lost my life. I
can't find them anymore. And if there's something I could give, I would have given it before now. Cause I came back a little broken. Things don't fit anymore. And I wait for spring to come. But how long, tell me how long, 'cause I wither at my post, I'm walking like a ghost, dead alone. How long, tell me how long, how long. Summer out there on the horizon, maybe there's a glimmer of hope, maybe it's just a mirage, 'cause you never know. And maybe things have changed. Storm clouds pass, take their rain. And I wait for spring to come. But how long, tell me how long, 'cause I wither at my post, I'm walking like a ghost, dead alone. How long, tell me.
Donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, le groupe d'Amnesty International Évreux, la suite de notre émission bimensuelle maintenant, comme on vous l'a dit au début, deux fois par mois. Et donc on vient d'écouter John Butler Trio, un morceau qui s'appelle Spring to Come, en français le printemps à venir. Alors je sais bien qu'on est en pleine canicule et ici dans le studio on est bien placé pour vous dire que c'est la canicule.
Oh oui.
Mais le titre du morceau c'est le printemps à venir, et je pensais que c'était un lien aussi avec la situation des droits humains. On ne peut qu'espérer qu'elle s'améliore, et donc on attend le printemps à venir. Voilà, c'était le lien que j'avais trouvé. Donc maintenant, c'est Claire-Lys qui va vous continuer à vous parler.
Non.
Si. Ah non,
j'ai
non, non.
J'ai une petite bonne nouvelle avant.
C'est vrai. J'oubliais qu'on faisait une bonne nouvelle à chaque fois. Vas-y, Ron.
Une fillette de 10 ans, là on est en série, une fillette de 10 ans visée par un sniper, opérée, évacuée. Gina Ahmad Wadi, une fillette âgée de 10 ans qui avait été grièvement blessée par un tireur embusqué à un poste de contrôle tenu par les forces gouvernementales syriennes le 2 août, a pu être évacuée vers Damas pour subir l'opération dont elle avait besoin.
Ah bon.
Bien, ça ne remplacera pas tous ceux qui meurent, mais au moins, c'est quelqu'un dont la vie a été sauvée.
Tout à fait.
Donc, dans Kerlis, c'est ça, Ronan ? Je vais demander conseil à Ronan parce qu'il nous reprend. Donc,
oui. Voilà.
Mais non, parce que j'avais, pour une fois que je pouvais parler.
Donc, Claire-Lys qui va vous continuer son dossier.
Et je ne te couperai pas, Claire-Lys.
Son dossier sur migrants et réfugiés.
Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Évreux cet été. Alors, à Évreux, mais j'étais déjà venue plusieurs fois dans l'émission, puisque je suis membre du groupe d'Amnesty, vous parler de ce qui se passait à Évreux, puisque je suis aussi membre du CFED Asti d'Évreux. Donc, c'est une association, un collectif pour l'égalité des droits français étrangers, et pour c'est l'association de solidarité envers tous les immigrés. Donc, j'assiste tous les samedis matins à la permanence du CFED où j'accueille les personnes qui viennent pour la première fois et qui viennent demander des conseils pour régulariser leur situation ou pour savoir comment faire pour une carte de séjour, etc. On est de plus en plus confrontés à des situations dramatiques
de personnes qui viennent, qui sont à la rue. Alors, soit parce que ce sont des gens qui ont fait une demande d'asile, mais qui ont été déboutés de l'asile. C'est-à-dire que la demande d'asile dure presque 2 ans avant d'être examinée. Hein. Ils sont pris en charge dans ce qu'on appelle le CADA. Hein. Et puis, ils sont hébergés dans des foyers pour les demandeurs d'asile. Et ils attendent donc la réponse de l'OFPRA, souvent, la plupart du temps,
si vous
non.
entendez un petit bruit derrière, c'est Françoise qui fait l'épouvantail avec un papier.
L'éventail.
L'éventail.
Donc, ils attendent la réponse de l'OFPRA. Très souvent, c'est quand même un rejet par l'OFPRA. Et donc, ils font un recours à la CNDA, qui prend plusieurs mois aussi. Une fois que la CNDA prononce le rejet de l'asile, les personnes qui sont déboutées de l'asile, en fait, ont 30 jours. Et au bout de 30 jours, elles se retrouvent à la rue. C'est-à-dire que le foyer qui est réservé aux demandeurs d'asile les met dehors. Sur le département de l'Eure, il y a une pratique en ce moment. Il semblerait que les personnes qui sont déboutées de l'asile reçoivent quasiment systématiquement, à la suite de ce rejet, une obligation à quitter le territoire français. Donc après, je vais vous parler d'OQTF. Ça va plus vite pour le dire. Alors que c'est pas le cas dans tous les départements. Des fois, quand on est débouté de l'asile, on peut faire une demande de titre de séjour parce qu'on est déjà installé en France depuis 2 ans, parce qu'on a créé du lien, parce que les enfants sont scolarisés, parce que voilà, on veut faire sa vie ici et on ne peut pas retourner dans son pays.
Pour raison de santé.
Pour raison de santé, et souvent parce que de toute façon, ils sont dans l'incapacité de retourner dans le pays qu'ils ont fui parce qu'ils sont en danger. Et donc, à Évreux, de plus en plus souvent, on voit des gens qui se retrouvent à la rue, que ce soit des femmes enceintes, des femmes seules, des femmes avec enfants, on les retrouve à la rue et aucune solution d'hébergement. Donc, c'est comme ça qu'au CEFED, on a rencontré Dorcas. Donc, Dorcas et ses 2 petits-enfants de 6 ans et 2 ans et demi qui, à la mi-juillet, se sont retrouvés à la rue. Donc, il y a eu tout un mouvement de solidarité hein, qui s'est créé autour de Dorcas. Je vous raconte très brièvement sa vie parce que c'est très emblématique. C'est pour ça qu'on avait choisi au CEFED aussi de plutôt montrer l'exemple de Dorcas, puisque ses 2 petits-enfants sont nés en Syrie. On parle beaucoup de l'accueil des réfugiés syriens. Et pourtant, elle n'a pas été accueillie comme une réfugiée et elle s'est retrouvée à la rue. Donc en 2007, alors qu'elle n'avait que 17 ans, le père de Dorcas a été assassiné. Donc elle est originaire de RDC, République démocratique du Congo. Il y a souvent des problèmes politiques et des
atteintes aux droits fondamentaux chez eux.
Des
disparitions, des exécutions sommaires, des tensions au secret, etc.
Voilà. Donc en 2007, elle n'avait que 17 ans. Son père donc, a été assassiné en RDC et elle-même était recherchée et en danger. Donc elle était la seule fille d'une fratrie de 4 enfants et sa mère l'a confiée à un homme qui partait en Syrie, se réfugier. À l'époque, il n'y avait pas la guerre. Hein. Donc en Syrie, cet homme est devenu son conjoint et ses 2 enfants sont nés en Syrie et ont connu aussi la guerre qui a éclaté il y a quelques années. Un soir de bombardement, le conjoint de Dorcas n'est pas rentré du travail. Elle ne l'a jamais retrouvé. Et donc on pense qu'il était mort. Et elle a eu peur et elle a décidé de partir avec ses 2 enfants. Donc ils ont mis plus de 2 mois en passant par la Turquie pour arriver en France pour demander l'asile. Et depuis qu'elle a quitté le Congo, elle n'a plus aucune nouvelle de sa famille. Donc Dorcas, jeune maman congolaise qui a fui 2 guerres, a vécu 7 ans en Syrie où ses enfants sont nés. Mais cette souffrance n'a pas été reconnue au même titre que les réfugiés venant de Syrie. Sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA et le préfet lui a donné une obligation à quitter le territoire avant qu'elle n'ait eu le temps de faire une demande de titre de séjour santé au titre d'un enfant malade. En effet, son jeune fils de 6 ans, né en Syrie, a connu les bombardements et la guerre. Et il garde de profondes séquelles de cette période de sa vie. Et un pédopsychiatre a attesté par un certificat de la nécessité d'un suivi pédopsychiatrique de plusieurs années. La nuit, cet enfant fait toujours des cauchemars et se cache sous son lit en pleurant. Déboutés de l'asile en France, ils sont de nouveau confrontés à une situation de rupture et de perte de repères, car le rejet de l'asile entraîne donc la fin de la prise en charge au foyer du CADA, et où ils avaient commencé à se reconstruire. Les travailleurs sociaux ont alerté le 115 sur la situation de vulnérabilité de la famille dès le mois de juillet. Soutenu par le CFED Asti, Dorcas a témoigné de son expérience tragique au micro de la radio Principe Actif le 26 juillet 2016, et le journaliste Claude Muret écrivait un article dans l'Heure Info sur la situation de cette jeune mère, déboutée de sa demande d'asile et se retrouvant à la rue avec ses deux enfants, depuis le 22 juillet 2016.
Putain, une seconde juste pour dire sur quoi, par rapport à Claude Muret, c'est quelqu'un effectivement qu'on connaît bien, parce qu'il vient régulièrement aux actions d'Amnesty et il nous fait toujours des comptes rendus dans la presse qui sont très, très, très favorables. Voilà.
Alors, je vous raconte l'histoire de Dorcas, hein, là, mais... c'est la même situation pour plein de personnes qui sont à la rue à Évreux en ce moment et cet été. Donc pour manger et se laver le matin, Dorcas et ses enfants se rendent à la Passagère. Donc c'est accueil service, hein, c'est un établissement d'accueil service qui est ouvert en journée, place Alfred de Musset à la Madeleine. Et pour manger, pour un repas chaud le midi, et ben c'est parfois vers les Restos du Cœur qu'il faut aller, parce qu'il n'y a pas toujours à manger. Il y a des petits gâteaux, des boissons à la Passagère, mais il n'y a pas toujours un repas complet le midi. Des associations caritatives distribuent de la nourriture et des vêtements. La Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire. Mais les personnes qui sont à la rue, elles ne peuvent ni cuisiner, ni disposer d'un lieu où stocker leurs bagages. Donc, quand on leur distribue des boîtes de conserve, ils ne peuvent pas les faire cuire. Hein. Il faut trouver des lieux. Le week-end, tous les lieux d'accueil pour ces personnes migrantes à la rue sont fermés. On ne se pose pas le week-end. Il n'y a pas de lieu pour se laver, ni pour manger. Rien d'autre que la rue et attendre 21h20 la maraude du soir à Netreville. Alors, avec le CFED Asti, on a décidé d'accompagner Dorcas à la maraude. Ça fait drôle d'entendre un petit garçon de 2 ans et demi qui commence à parler et qui vous dit « la maraude, la maraude, la maraude ». Il ne connaît que ce mot, en fait, parce qu'il attend à manger le soir dans la rue et il attend la venue de la voiture. Ce sont des salariés d'accueil-service qui effectuent le passage de la maraude à Évreux le soir. Moi, je les ai vus à plusieurs reprises. Ils font un travail super. Ils ont une présence auprès des personnes qui sont à la rue. Ils n'ont pas les moyens d'héberger tout le monde et ils voient des situations dramatiques. Et je ne peux que dire, en tout cas, qu'ils font un boulot incroyable. Donc, la nuit, la famille est hébergée ensuite dans une église de Netreville. Alors, il faut dire qu'il y a 2 lieux sur Netreville qui sont des lieux de culte évangéliste et où il y a possibilité pour les migrants à la rue d'être hébergés. Alors, le lieu où va Dorcas, c'est un entrepôt où il y a 15 à 20 matelas et où il n'y a pas de lieu pour se laver le matin, etc. Et où ils sont tous les uns à côté des autres en totale promiscuité. Il n'y a pas de conditions d'hygiène et le petit garçon de Dorcas a souffert de conjonctivite récidivante liée aux conditions d'hygiène auxquelles il était soumis. Cette précarité extrême laisse des traces profondes chez les enfants. Donc je vous parle toujours de Dorcas, mais je pourrais vous parler de Bibiche, qui est enceinte de 4 mois, qui vit la même chose. Je peux vous parler de Jean, qui est arrivé sur Évreux de RDC avec ses 3 enfants, qui a été à la rue aussi pendant presque un mois, pendant tout le mois d'août. Enfin, ils sont très nombreux. Marie-Jeanne, qui elle n'a pas d'enfant et qui est allée à l'église de la Maison de l'Éternel là, depuis des mois. Ils sont très très nombreux à faire appel au 115 et il n'y a pas de place pour eux parce que quand ils ont une obligation à quitter le territoire, eh bien, ils ne sont pas prioritaires et donc il n'y a pas de place pour eux. C'est ça qui me met en colère parce qu'il y a un devoir de l'État d'assumer le devoir d'accueil et d'hébergement et qui n'est pas tenu. Donc pour faire un petit peu plus court, Dorcas, elle est restée à la rue pendant 40 jours. Pendant 40 jours, on a appelé le 115 et il n'y avait pas de place pour elle. Alors, elle n'est pas la seule, hein, parce que, voilà, sa situation, en fait, s'est un petit peu améliorée. Il y a un collectif de soutien qui s'est créé en faveur de Dorcas. Et il faut dire aussi que le travail de Daniel du CEFED, qui a porté ses fruits, puisque la préfecture a accepté le 26 août d'ouvrir un dossier de demande de séjour pour enfants malades. Et parce que le dossier de demande de titre de séjour a été ouvert, l'OQTF est tombé. Quand on a appelé le 115 le jour même, il n'y avait pas de place quand même pour Dorcas. Ils ont quand même continué à la laisser 5 jours à la rue. Et j'ai fait un courrier à la direction départementale de la cohésion sociale le 30 août. Et à partir du 30 août, Dorcas a été hébergée à l'hôtel Formule 1. À Évreux, elle y est depuis, parce qu'elle attend d'avoir une place en foyer. La situation de Dorcas, elle n'est pas la seule. Hein. Ce que je vous disais, ils sont des dizaines à Évreux à être à la rue. Et dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d'hébergement, l'État, en ne procurant pas d'offres concrètes dans le cadre des conditions minimales d'accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, porte atteinte au droit à l'hébergement d'urgence. Quand on donne des directives à la direction départementale de la cohésion sociale ou au SAMU pour ne pas héberger les personnes, eh bien, ils portent atteinte. Et si on se retourne vers des tribunaux administratifs, parce qu'il y a beaucoup de cas en France, et ça passe en tribunal administratif, c'est toujours la même phrase, et c'est celle que je viens de vous lire. Hein. L'État porte atteinte au droit à l'hébergement d'urgence. Et ça se termine par, en fait, une condamnation avec une injonction d'héberger les personnes. Donc, je ne sais pas si on va en être obligé d'aller au tribunal administratif pour régler ce qui se passe sur Évreux, mais c'est quand même très grave, les atteintes aux droits des personnes. Voilà, pour vous, je vous ai parlé de Dorcas. Donc, il y a de nombreuses associations qui interviennent et qui font ce constat du manque d'hébergement, du manque de moyens et qui réfléchissent ensemble pour essayer d'améliorer la situation sur Évreux. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Je ne veux pas vous en parler pour l'instant parce que ce n'est pas encore totalement abouti. Et puis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront en parler quand ce sera le cas mieux que moi. Mais il y a une réflexion, en tout cas, de plein d'associations sur Évreux qui s'occupent des personnes migrantes. Voilà. J'ai d'autres choses après, mais je vais vous laisser un peu.
Réflexion, je complète ce que vient de dire Pierre-Lise. Réflexion qu'on a discuté hier à la réunion de rentrée du groupe d'Évreux après les vacances. Et par rapport au collectif, donc Pierre-Lise parlait sans dévoiler de secret. Amnesty Évreux envisage très fortement d'apporter son soutien à ce collectif et d'y participer dans la mesure de ses moyens militants. Voilà. Je voulais simplement dire aussi par rapport au coup de gueule qui a poussé Claire-Lise, à juste titre, on connaît aussi une Élise, mais ce n'est pas la même, à juste titre par rapport aux gens qu'on laisse sans hébergement, etc. Alors, je vous parlais au début d'émission de la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Article 25, toute personne, il n'est pas dit toute personne avec des titres de séjour, hein, ce n'est pas précisé, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Toute personne, il n'y a pas de condition.
Alors actuellement, il y a des familles à la rue. Parce que j'ai quand même, je ne vais pas vous dire les noms parce que je vous respecte quand même, mais une famille qui vient de Chine, qui est de Mongolie intérieure, qui a été déboutée du droit d'asile, donc composée de 6 personnes, dont 4 enfants avec un bébé de 2 mois.
Oui, de 2 mois.
Ils sont à la rue et ils dorment tous dans une voiture. Il y a une famille originaire d'Arménie, c'est pareil, composée de 4 personnes, je les ai vues samedi au CEFED, avec 2 enfants. Ils sont à la rue aussi, les enfants de 11 et 8 et 9 ans qui retournent à l'école, puis qui le soir retournent dormir, on ne sait pas où. Enfin voilà, il y a énormément de cas qui me font pousser...
Comme on disait au début, la situation des droits humains se dégrade et c'est à nous effectivement d'inverser la tendance. Je sais que Mina a très très envie de parler, elle est à côté de moi, là ça fait un bout de temps qu'elle tripote ses papiers pour prendre la parole. Mais je crois qu'il y a Ronan qui doit encore dire une bonne nouvelle avant que Mina puisse parler.
Non, non, ça va être bien la pause bonne nouvelle, je pense.
Bon, d'accord.
Non, je fais une bonne nouvelle parce que c'est vrai que là, j'ai plus de voix. Mais bon, quand je... mais bon. Donc, bonne nouvelle. Narj Mohammi autorisé à parler à ses enfants. Suite à nos actions de pression, la prisonnière d'opinion iranienne Narj Mohammadi a interrompu la grève de la faim qu'elle poursuivait depuis 20 jours après avoir reçu l'autorisation d'avoir une conversation téléphonique avec ses enfants. Donc la bonne nouvelle, en fin de compte, c'est qu'elle a une conversation téléphonique. Oui. Bon, elle est toujours emprisonnée, mais bon.
Mais enfin, au moins,
oui. Au moins elle a pu mais parler enfin, à ses enfants. Quoi.
Ça veut dire qu'on obtient des avancées, même dans un pays comme l'Iran, qui est un exemple de gouvernement et d'autorité qui ne respecte aucun principe des droits humains. C'est pas le seul, c'est pas le seul.
Maintenant, je passe la main à Mina.
Voilà, à toi.
Même le micro, je dirais. Et donc, nouvelle rubrique... de cette année, de cette rentrée, c'est la culture engagée, la rubrique culturelle. Comme vous voyez, on est très engagé.
Bah oui, on est engagé, bien sûr.
Bah oui, bah,
on fait
c'est
que
important.
Ça, on fait que ça, l'engagement.
Donc, par rapport aux réfugiés, Amnesty International a sorti un livre il y a 3 ans. Réfugiés, un scandale planétaire, 10 propositions pour sortir de l'impasse. Donc, comme vous voyez, pas beaucoup ne l'ont lu ou pas beaucoup ne respectent les droits humains.
Moi, je l'ai lu, le livre, par contre. J'ai lu le livre, je pense qu'il est encore disponible et c'est une mine d'informations.
Ben oui. Dernièrement, Yolande Moreau a sorti un documentaire qui s'appelle « Nulle part en France ». Donc, un petit résumé pour savoir de quoi ça parle. La cinéaste belge Yolande Moreau s'est rendue 10 jours dans les jungles de Calais et de Grande-Synthe en janvier 2016 afin de rencontrer des migrants qui passent leurs jours et nuits sous les tentes, coincés dans la boue et la misère. Le résultat est là, nulle part en France. Un documentaire saisissant, avec un ton singulièrement poétique, rempli d'empathie et de souffrance. Il y a des scènes bouleversantes, les toiles de tente, des feux, un vent incessant, des policiers, des enfants souriants, un drapeau qui flotte tristement, un bulldozer qui refuse aux migrants le droit de vivre sur cette terre. On n'a pas fui la mort pour venir mourir ici, lâche une femme kurde. La terre refuse de les accepter. La frontière refuse de se laisser franchir. Fuis de la mort pour mourir sur une autre terre. C'est ainsi que se termine la vie d'Ali, d'Haroun Youssif, de Chaïd, couchés à jamais dans le cimetière des jungles de Calais et de Grande-Synthe. Excusez-moi, j'ai du mal à lire, je suis petite avec le micro. Je continue. Auré supplie le gouvernement français d'avoir un peu de patience, rien que ça. L'espoir est toujours là. L'espoir, en temps de détresse, nulle part en France, pose une simple question. Quand l'attente se finira-t-elle enfin ?
Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Mina, donc ce documentaire il a été fait au début de l'année, en janvier 2016. Je suppose, parce que moi j'aime bien ce que fait Yolande Moreau, je suppose oui. Qu'effectivement ça doit être très beau
c'est
et très poétique.
Arte, ouais.
Ce qui est un peu moins poétique, c'est le mur qui est en train de se construire à Calais pour empêcher effectivement les migrants, parce que c'est la solution que la France et l'Angleterre ont trouvée, de construire un mur de 4 mètres de haut et de je ne sais plus combien de large pour empêcher chez les migrants d'arriver au camion. Il faut se dire que quand même, tous les gens qui s'agglutinent à Calais, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on leur refuse l'accès à l'Angleterre pour le rapprochement familial. C'est parce qu'ils ont déjà de la famille, enfin pour certains en tout cas, pour beaucoup, de la famille en Angleterre et que l'Angleterre, elle a mis des frontières en France carrément avec un accord qui a été signé par la France. J'oublie toujours l'accord du Touquet, c'est ça ?
Oui, l'accord du Touquet. C'est pas très vieux, hein, c'était au printemps dernier.
Ouais, donc voilà. Et donc on empêche les migrants de rejoindre leur famille en Angleterre. Et maintenant, on construit un mur. Donc, il y a certains murs qui s'appelaient les murs de la honte.
Oui.
Voilà. Ça fout encore les miquettes.
Tout pays, enfin, tout État qui s'amuse, qui décide de construire des murs et sur une pente dangereuse en termes de respect des droits humains, ça, c'est clair, c'est facile à comprendre. Moi, j'avoue qu'étant enfant, j'ai été à Berlin à l'époque où le mur de Berlin existait. Et on comprend bien ce que c'est effectivement que des atteintes aux droits fondamentaux quand on voit ce genre de construction. Voilà.
On te redonne la parole, Mina.
On l'a interrompu en plein travail. Oui,
hein. Non, mais c'était bien de rebondir, surtout sur ce mur qui se monte. Très bien, on est dans l'actualité.
Oui.
Après une BD, il y a La Baille. Alors, le petit résumé, qui est très bien fait aussi. en édition Amnesty International avec le Lombard, voilà. C'est cool. Et c'est deux co-éditions, voilà. Mmh. Kingon Park et Joseph Safidine. Ceci est un appel à l'aide. Je m'appelle Gabrielle El-Chataoui, j'ai 20 ans. Et c'est la peur au ventre que je vous écris. Partir en vacances à Tyr, au sud du Liban, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère sont aujourd'hui retenus sur place, sous les bombes de l'armée israélienne. Réfugiés dans le quartier chrétien, ils n'ont à ce jour aucun espoir d'être évacués. Mon frère hémophile est en grave danger car il n'a aucun moyen de se procurer les médicaments nécessaires à sa condition. Même mon père, rompu à la guerre, n'aurait pu prévoir une situation aussi chaotique. Je compte les heures et les minutes dans l'attente de nouvelles de leur part. Ma famille est française et mérite la protection de son pays. La République ne peut abandonner des membres de sa communauté à l'arbitraire et à l'horreur de la guerre. Voilà. Donc, très bonne BD aussi.
Et... qu'on trouve en librairie. Faut pas hésiter à les demander.
La BD Lib. Je l'ai acheté à BD Lib, voilà. Si vous voulez. À Évreux.
Publicité gratuite.
Voilà. Et donc, là... C'est plus vieux, mais l'Arabe du futur, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire, le 1 et le 2. Et dans les INROC de juin 2015, je vais vous lire une partie de ce que dit Riyad Satouf à la question que lui pose le journaliste. C'est la guerre en Syrie qui a servi de déclencheur et vous a décidé à raconter votre jeunesse au Moyen-Orient. Au moment où la guerre civile en Syrie a débuté, une partie de ma famille vivait encore à Homs. J'ai pressenti tout de suite que ça allait dégénérer. Il y avait des manifestations pacifistes dans la rue et je demandais à ma famille de ne surtout pas y aller. Alors j'étendais de les faire venir en France, mais je me suis heurtée à l'administration. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir des autorisations. N'est-ce pas, Claire-Lise ? Quand j'allais à la mairie, j'entendais des trucs incroyables pour justifier les refus de visa. Je me disais, ce n'est pas possible. Il faut que je raconte comment ça se passe. Mais pour ça, il faut que je raconte l'histoire depuis le début. Les gens pensent que la France est une terre d'asile dans laquelle n'importe qui peut entrer facilement. Ce n'est pas le cas. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Et je vous retrouverai si j'ai 1 minute 30 à la fin de l'émission.
1 minute 30, c'est beaucoup.
Pour 2 poèmes de White Whitman.
Oui, un peu de poésie. Si, si, on t'aménagera un petit temps. Je vois l'heure qui passe quand même. Je voulais vous parler... T'as encore une bonne nouvelle, Ronan ?
Non, mais je te laisse parler, vas-y.
Bon. Je voulais vous parler, on avait prévu de vous parler, mais on va peut-être passer quelques secondes de musique avant quand même, d'une évolution du traité sur le commerce des armes. Je vais le faire après la pause musicale, et puis voilà, donc pause musicale. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la dernière séquence de l'émission bimensuelle d'Amnesty International Évreux. Donc là, on vient d'entendre Jacques Higelin, c'est un morceau que j'ai ramené qui s'appelle « C'est dur aujourd'hui la crise », si je ne m'abuse, je n'ai pas le titre sous les yeux. Et c'est une reprise d'un morceau qu'il avait fait il y a 30 ans, qu'il a réarrangé pour un disque qui est sorti récemment, il y a 2 ou 3 ans.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça.
Et c'était humoristique parce qu'effectivement, il y a 30 ans, il disait « C'est dur aujourd'hui la crise », y compris la crise des droits humains. Et on peut dire 30 ans après, c'est dur aujourd'hui la crise, mais demain ça ira vachement mieux, comme il dit, et c'est bien ce qu'on espère. Donc, il y a encore effectivement Mina qui va vous dire un petit poème pour finir. Moi, je voulais vous parler donc de l'évolution sur le traité sur le commerce des armes. Alors, pour rappeler à ceux qui ne sont pas au courant, les nouveaux auditeurs d'aujourd'hui, le traité sur le commerce des armes a été signé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et il a été mis en application à Noël 2015, c'est raison. Le but de ce traité, qui a été obtenu après 20 ans d'action d'Amnesty et d'autres ONG, il est d'interdire la vente des armes aux États qui les utiliseraient contre leur propre population et qui ne respecteraient pas les droits humains dans l'utilisation de ces armes. C'est un vaste sujet, on est loin d'y être arrivé, mais c'est un premier élément. Et il y a une conférence qui s'est tenue à Genève au mois d'août, du 22 au 26 août, pour faire le point sur l'évolution de ce traité. Bien sûr, Amnesty y a participé. Donc, je vais vous lire. La deuxième conférence des États parties du traité sur le commerce des armes s'est déroulée à Genève du 22 au 26 août. Des centaines de délégués sont venus de plus de 100 pays. C'est l'occasion pour les pays membres de rendre des comptes quant à leur mise en œuvre du traité et de débattre des moyens de le renforcer. Le traité sur le commerce des armes a pour mission de sauver des vies et de protéger les droits fondamentaux contre les effets dévastateurs du commerce international des armes. Les États doivent faire en sorte que ce traité soit à la hauteur de ses promesses en prenant des mesures concrètes et transparentes en vue d'une mise en œuvre efficace. Pourtant, les États qui l'ont signé ou même ratifié semblent penser qu'ils peuvent continuer à fournir des armes à des forces connues pour commettre et faciliter des crimes de guerre et à délivrer des autorisations d'exportation, même en cas de risque majeur que ces armes contribuent à de graves violations des droits humains. Alors, les États-Unis qui ont signé le traité et les États membres de l'Union européenne qui l'ont ratifié, notamment la Bulgarie, la République tchèque, la France et l'Italie, continuent d'inonder d'Égypte d'armes légères et de petits calibres, de munitions, de véhicules blindés et d'équipements destinés au maintien de l'ordre, en dépit de la répression qui vise la dissidence et se traduit par l'homicide illégal de centaines de manifestants, des milliers d'arrestations et des cas de torture infligés aux détenus depuis 2013. En 2014, la France a autorisé des exportations incluant une nouvelle fois des véhicules blindés Sherpa, véhicules sophistiqués qui avaient servi aux forces de sécurité pour tuer des centaines de manifestants au sit-in de Rabat al-Jamia, un an auparavant, toujours en Égypte. En outre, des armes obtenues auprès des signataires du traité continuent d'alimenter des guerres civiles sanglantes. En 2014, l'Ukraine a donné son feu vert pour l'exportation de 830 mitrailleuses légères et de 62 mitrailleuses lourdes à destination du Soudan du Sud. 6 mois après avoir signé le traité, les autorités ukrainiennes ont accordé une autorisation d'exportation concernant la livraison au Soudan du Sud d'un nombre non divulgué d'hélicoptères d'assaut. 3 de ces hélicoptères d'assaut sont actuellement en service au sein des forces gouvernementales sud-soudanaises qui attendraient la livraison d'un autre appareil. Actuellement, l'impact des transferts d'armes sur les droits humains n'ont pas été évalués au cas par cas, comme le prévoyait le traité. Depuis mars 2015, le département d'État américain a autorisé la possible vente d'équipements militaires et de soutien logistique à l'Arabie Saoudite pour une valeur de plus de 21 milliards d'euros, tandis qu'entre mars 2015 et juin 2016, le Royaume-Uni a autorisé l'exportation de 3,9 milliards d'euros d'armement vers ce pays. Ces autorisations ont été accordées alors que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite menait des frappes aériennes sans discrimination, continues et disproportionnées, et des attaques au sol contre les civils au Yémen, dont certaines pourraient constituer des crimes de guerre. On vous avait parlé du Yémen dans une précédente émission. Dans le cadre du traité, les États parties doivent présenter des rapports spécifiques, un rapport initial sur les dispositions prises pour mettre en œuvre le traité, y compris les lois nationales, règlements et autres mesures administratives qui devaient être rédigées avant décembre 2015, et un rapport annuel concernant les exportations autorisées ou effectuées d'armes à remettre avant le 31 mai 2016. Actuellement, les États parties au traité ne se sont pas explicitement tenus de rendre public leurs rapports. Le modèle provisoire de rapport et les importations et exportations d'armes comporte une case à cocher où il faut simplement indiquer s'ils souhaitent ou non qu'ils soient mis à disposition du public. La Moldavie et la Slovaquie ont choisi de garder leur rapport annuel confidentiel. autoriser les gouvernements à choisir de dissimuler les informations relatives à certaines ou toutes leurs exportations et importations d'armes ne permettra guère au Parlement, aux médias et à la société civile d'évaluer le niveau de réalisation des objectifs clés en termes de droits humains. Il est primordial que tous les États parties soumettent leurs rapports dès que possible, les rendent publics sur Internet et expliquent les raisons justifiant d'éventuels retards. Bon, il y a une pétition à signer qui est toujours en ligne et qui est destinée à François Hollande pour que la France respecte, qui est signataire du traité, respecte ses engagements, ce qu'elle n'a pas fait. Les garanties les plus solides possibles quant à l'utilisation finale réduiraient le risque que des armes ne soient transférées ou détournées vers des groupes non autorisés ou utilisées à des fins autres que celles déclarées et illégales, susceptibles de bafouer les engagements portés par le traité. Un critère essentiel doit s'appliquer aux exportateurs d'armes. Ils ne doivent pas autoriser les transferts d'armes tant que les États importateurs n'ont pas fourni de garanties juridiquement contraignantes, assurant que les utilisateurs finaux de ces armes respecteront les droits humains et l'état de droit. Pour sauver des vies, le respect du droit international humanitaire et relatif aux droits humains doit être une condition incluse dans les garanties relatives à l'utilisation finale. Bon, voilà, voilà ce qui a été le résumé de ce qui s'est dit à Genève. Bien évidemment, Amnesty International y était présent avec 7 participants, dont Aymeric Alouin, qui est le permanent d'Amnesty France pour ces questions de traité sur les armes. Voilà.
Le poème de Mina.
Il nous reste 4 minutes, elle a demandé 1 minute 30, donc c'est bon. Juste une information locale, juste avant de passer la parole à Mina, et je m'arrêterai là. Il y a actuellement une exposition sur la liberté d'expression qui a été créée, une remarquable exposition, qui a été créée par le groupe de Louviers il y a 3 ans maintenant, je crois. Ans. Et qui est actuellement exposée, si vous avez l'occasion d'y passer, au lycée Les Portes de Normandie à Verneuil. Le lycée vient de voir la naissance d'une antenne jeune d'Amnesty, auquel le groupe a participé et qui a plein de projets pour cette année. Ils sont très, très dynamiques. Et la première action, c'est l'exposition qui est actuellement mise depuis une semaine et qui restera encore une quinzaine de jours, l'exposition Liberté d'expression, qui reprend tout l'historique et tous les textes sur la question et qui est vraiment une exposition extrêmement remarquable. On fait un vernissage jeudi, si vous avez l'occasion de passer par le lycée, à 13h, en présence du proviseur et en espère de monsieur le maire de Verneuil. Voilà. Maintenant, Mina, un peu de poésie.
Donc, un poème en relation avec notre outil principal à Amnesty.
Stylo.
Voilà. De Walt Whitman, dans son recueil Feuilles d'herbe. Pourquoi croyez-vous que je prenne la plume ? Pourquoi croyez-vous que je prenne la plume ? Pour noter quoi ? Le spectacle du cuirassé aux mesures idéales, passé majestueusement tout à l'heure devant mes yeux en direction du large ? Ou bien les splendeurs du jour écoulé, les splendeurs de la nuit qui m'enveloppe ? La glorieuse expansion de la grande cité étendue autour de moi ? Non. Simplement l'histoire de deux hommes ordinaires, vus par moi aujourd'hui sur la jetée dans la foule, se disant adieu en amis tendres. Celui restant à terre, bras entourant le cou de l'autre en une étreinte passionnée, celui qui s'en allait serrant très fort dans ses bras, celui qui restait. Voilà.
Un autre ? Non ? Tu avais parlé de deux poèmes ?
Non ? Oui, mais je voulais...
Il nous reste une minute.
Allez,
Une minute.
Est-ce qu'on a annoncé la prochaine date de l'émission ?
Oui,
Bon, alors d'accord.
C'est donc, très gentil à toi. En tout
bon, cas. On va chanter le deuxième poème, tant pis. C'était une nouveauté, mais vous n'aurez qu'un motif de ce qui était prévu. Prochaine émission, le mardi 27 septembre, dans 15 jours, même heure, même endroit, 19h-20h sur l'antenne de Principe Actif. Et on se retrouvera comme ça tous les 15 jours, ou à peu près tous les 15 jours, ça dépend des mois. Mais de toute façon, deux fois par mois sur l'antenne de Principe Actif en direct. C'était le groupe Amnesty International Évreux. Et il y avait, c'est pourquoi on va faire une sortie en renommant les gens pour la première fois. Claire-Lise.
Eh oui.
Mina.
Au revoir.
Françoise.
Bonsoir.
Renan.
Bonne soirée.
Et moi. Je m'appelle
Didier.
Je m'appelle pas. Yeah. Je m'appelle pas. Dans 15 jours.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des